Comme Philippe l'a dit, Maxime n'est pas là, mais je fais comme Maxime, on se spécialise dans le remplacement de nos invités qui sont malades. C'est pratique parce que ça donne toujours l'excuse de ne pas être complètement prêt, donc c'est toujours confortable. Alors en plus, il y a une deuxième petite péripétie, je dirais, c'est que donc pour ceux qui lisent attentivement le programme qu'envoie Joël par mail, j'avais prévu de parler dans quelques semaines sur ce thème de Jacob à Péniel et de Genèse 32. Et puis alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière,
peu nombreux.
Eh bien, figurez-vous que Stéphane Blanc, qui était là, a parlé sur Genèse 32. Ah voilà, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ils pensaient avoir Henri Blocher et ils ont Olivier, et puis ils se préparent une deuxième dose de Genèse 32. Mais on m'a dit que c'était pas grave, et donc peut-être, effectivement, même, que finalement, eh bien, peut-être que Dieu veut spécialement nous parler de ce qu'il veut dire à travers cet épisode. Alors, avant de lire ce passage, ce que je vous propose pour vous mettre dans l'état d'esprit dans lequel j'ai eu à cœur de lire et de réfléchir sur ce passage, pour l'état d'esprit, pour recevoir ensemble ce que Dieu peut avoir à nous dire à travers ce récit, c'est qu'on se replace en fait chacun, finalement, dans ces moments de notre vie où l'on est seul, soit parce qu'on est vraiment seul, soit parce qu'on se sent finalement seul. On se sent à un carrefour de vie, on se sent face à la sensation d'être dans un combat peut-être parfois purement intérieur, peut-être vis-à-vis d'une circonstance très concrète, combat peut-être vis-à-vis d'autres personnes, peut-être un combat dont on sent plus ou moins... un combat peut-être dont on sent plus ou moins confusément qu'il est dirigé contre Dieu, mais pas seulement, un combat au sens large. Et c'est de ça dont nous parle ce passage, et donc on va lire ensemble dans Genèse, au chapitre 32. Et on va commencer, je commence au verset 2. Ça marche pas. Tout le monde m'entend ? Ce qu'on va faire, c'est que si à un moment donné je parle pas assez fort et si ma voix baisse, vous me le dites et j'essaierai de reprendre. Genèse 32, verset 2. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit : c'est le camp de Dieu. Il appela cet endroit Mahanaïm. Et Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob en disant : nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Il se disait : si Ésaü attaque l'un des camps et se bat, et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit : Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit : retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit : je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Et c'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü : 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs : passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier : quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera : à qui es-tu ? Où vas-tu ? À qui appartient ce troupeau devant toi ? Tu répondras : à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Et il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi : ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet : Je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai face en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Et le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. La Bible nous dit que Jacob a lutté avec Dieu et avec les hommes. Est-ce que c'est ma vie aussi ? Et finalement, qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui cloche pas dans le fait de lutter avec Dieu, avec les hommes ? Pourquoi ? D'ailleurs, Jacob n'est-il pas déclaré vainqueur ? Voilà, c'est un peu toutes ces questions, je trouve, que soulève ce verset. Lutter avec Dieu, ça peut nous renvoyer au fait de lutter contre Dieu, de lutter sans Dieu, de lutter avec Dieu à mes côtés. Et en arrière-plan de toutes ces questions, voilà, je trouvais important, peut-être intéressant d'entrer dans cette réalité de lutte, de défaite, de blessure, de victoire. Parce que peut-être, je caricature un peu, mais j'ai l'impression qu'on est parfois sur ces questions entre deux extrêmes. Soit des représentations de vie chrétienne un peu boostées au sensationnel, au storytelling, avec des victoires miraculeuses, des interventions de Dieu incroyables dans nos vies tous les trimestres, quoi. Soit, et c'est peut-être plutôt ce qui nous caractérise collectivement, peut-être plutôt une réticence un peu à partager à la fois nos luttes, nos défaites, nos victoires, et peut-être alors un risque d'être finalement condamné à vivre ces combats de manière un peu isolée, peut-être dans la culpabilité, ou tout simplement dans la fragilité de la solitude. Donc j'aimerais, à travers ce récit de Jacob à Péniel, qui a vu la face de Dieu et dont la vie a été sauvée, parler de lutte, de victoire et de la grâce du Dieu qui lutte avec nous. Alors je vais d'abord rappeler rapidement le contexte. Et puis ensuite, je vous propose de réfléchir à la façon de comment on comprend cette lutte, ce combat, comment on comprend la victoire, et puis de conclure sur trois encouragements que je retire de la grâce de Dieu en action à Péniel pour Jacob, comme elle l'est dans nos vies aujourd'hui. Alors d'abord un petit rappel, mais vraiment rapide, hein, mais Jacob, du contexte et du personnage, hein, Jacob... Voilà, qui est né, on y reviendra, en tenant le talon de son frère, hein, d'Ésaü, avec ses bébés qui se bousculaient dans le ventre de leur mère. Et puis, un peu plus tard, cet épisode où Ésaü, affamé, se retrouve face à Jacob, lui demande un peu de son repas, un peu de son plat. Et Jacob, qui, déjà très opportuniste, très... à l'affût, très dans la lutte, très aussi attaché à cette promesse qu'il devine, eh bien, en profite pour récupérer le droit d'aînesse d'Ésaü en échange de ce plat. Et puis, un peu plus tard, avec l'aide de sa mère, la façon dont Jacob va en fait usurper, en fait, voler, hein, vraiment la bénédiction de son père qui était destinée à Ésaü. Et puis, vous vous rappelez, évidemment, on se rappelle, hein, cette histoire, là, on voit ce tableau où Jacob, avec le repas préparé par sa mère, avec les poils mis sur sa main pour tromper son père, eh bien réussit à capter le plus beau de la bénédiction que son père destinait à Ésaü. Et puis ensuite, c'est une vie aussi de méfiance, du coup de tension derrière avec son frère. Jacob qui part pour trouver... dans le courant de la volonté de Dieu et de ses parents pour trouver une femme qui soit comme Dieu le voulait de leur peuple, et donc qui trouve Rachel et qui est ensuite trompée par Laban avec ses 14 ans de travaux pour avoir à la fois Léa et Rachel. Et puis cet épisode ensuite, quand il veut quitter Laban, du partage des troupeaux, du partage des richesses, et ce subterfuge encore que trouve Jacob, on y reviendra peut-être un petit peu sur, vous savez, où Laban lui dit, bah, tu prendras tout ce qui est brebis tachetées, rayées, et tout en lui enlevant complètement ses brebis de son troupeau, du troupeau qu'il avait en garde. Et puis Jacob, aidé par Dieu et par son subterfuge, l'un ou l'autre, on y reviendra, arrive à accumuler des richesses. Cette période de tension, de crise avec les enfants de Laban, il est obligé de quitter finalement un peu en catastrophe et un peu sous tension Laban, qui le rattrape. Et là, vous voyez dans ce tableau aussi la scène qui précède presque, c'est quand Laban les rattrape en disant bah, tu as volé en plus un de mes dieux, un de mes idoles, et en fait c'était Rachel qui l'avait volé sans que Jacob soit au courant. Et là, on voit le tableau où elle cache cette idole. Et puis finalement, donc juste avant le verset d'avant de ce qu'on a lu, il y a finalement une trêve, ou en tout cas il se parle avec Laban et il se sépare, mais il se sépare quand même sans conflit finalement. Voilà, Laban se lève, part pour retourner chez lui, et puis Jacob poursuit son chemin. Il poursuit son chemin. Pourquoi ? Il revient et il est face à cette retrouvaille avec Ésaü, avec ce frère qu'il a usurpé. Et donc on a vu, hein, on n'y reviendra pas, mais j'ai lu pour le contexte, toute cette crainte de Jacob par rapport à qu'est-ce qui va se passer, que va faire Ésaü. Et donc c'est ici que l'on se retrouve. Jacob planifie sa stratégie pour amadouer Ésaü. Il la met en place, il envoie devant lui ses biens, sa famille. Et puis il reste seul au bord de ce torrent de Jabbok. Je trouve, quand on y pense, voilà, c'est vraiment, ça doit être un moment de vie très particulier quand même pour Jacob, parce que, je ne sais pas si je suis sensible à ça, c'est la crise de la quarantaine, je ne sais pas, mais vous voyez, il a fait toute une partie, en fait, il a été envoyé, il a fait toute une partie de ce que... il allait trouver une femme, il a construit, il a eu des richesses, il le dit à Dieu, hein, dans la prière qu'on a lue, voilà, je suis parti qu'avec mon bâton, j'ai accumulé beaucoup de choses, et en même temps, à cet endroit précis, il se retrouve un moment où il peut tout perdre. Et où il se dit, mais finalement, il part dans une situation de tension vis-à-vis de Laban. Il arrive dans une situation d'incertitude totale, de crainte, où il peut tout perdre. Et il est seul. Et il est seul parce que, voilà, il est seul face à... Il y a eu les promesses de Dieu. Il se dit, est-ce que finalement, je suis en train de les accomplir ou est-ce que je vais tout perdre ? On le sent dans cette solitude aussi, d'un carrefour aussi un peu de vie, où il peut à la fois, voilà, gagner et perdre. Et c'est là qu'il se retrouve seul. Il fait passer donc sa famille avant ses biens. Donc tout est là, tout est parti, et il se retrouve seul. Et il y a cet homme qui va lutter avec lui. Alors, comment comprendre cette lutte, justement? Elle est très étonnante, hein. C'est une scène étonnante. C'est d'ailleurs intéressant quand on regarde des commentaires ou des méditations, la façon dont c'est assez plastique, en fait. Les gens, ils voient différentes choses, différentes interprétations, parce que elle est très étonnante. Cet homme qui arrive, on ne sait pas pourquoi, comment, qui se met à se battre avec lui. Alors, il y a eu toute une première discussion. Est-ce que c'est une vraie lutte? Est-ce que c'est un combat physique, ou est-ce que c'est finalement un combat intérieur seulement de Jacob? Est-ce que c'est juste, là, il était dans cette nuit et il a pensé, est-ce que c'est un combat intérieur ou un combat réel? C'est sûr qu'il y a une dimension, on va le revoir, intérieure, spirituelle dans cette lutte, mais pour moi, tout le texte en fait va dans le sens quand même d'une manifestation réelle, concrète de Dieu et d'une lutte physique, même si évidemment elle se double d'une lutte intérieure. Donc on peut vraiment penser que c'est une lutte réelle ici. Ce qui est, je trouve, aussi frappant, ce qui est frappant aussi dans cette lutte, c'est que, évidemment, se pose la question du combattant. Qui est le combattant ? Alors, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'il est parlé, il dit, le texte commence en disant un homme luttait avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mais ensuite, on voit bien, hein, Jacob va dire, j'ai vu Dieu. Donc, on a ces manifestations, on a plusieurs fois ces manifestations dans l'Ancien Testament, en fait, Dieu qui arrive, l'ange de l'Éternel. Donc, je vous propose de passer rapidement, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Donc, quand il est dit un homme lutte avec lui, c'est pour moi la façon dont Jacob le voit arriver. C'est-à-dire, il ne peut pas savoir que c'est Dieu à ce moment-là, en tout cas. Et donc, il le voit comme un homme. Mais la suite du passage nous démontre bien que ce combattant, c'est quand même Dieu lui-même. Et on va lire ensuite, d'ailleurs, la façon dont Osée le reprend cet épisode et dit de manière assez, assez claire que c'est avec Dieu que Jacob a lutté. Donc, et ce combat, cette lutte, ce que je trouve frappant aussi, assez évident, c'est que finalement, c'est un peu la perpétuation de ce qu'a toujours vécu Jacob, quoi. De manière choisie ou subie, il a toujours été un petit peu dans cette lutte un peu sourde ou dans cette lutte frontale, directe, mais il a toujours été là-dedans, dans ce modèle-là, parfois lui-même mis en avant, parfois subi, mais en tout cas qui a été un peu tout son trajet jusque-là. Ça dit un petit peu quelque chose de la continuité, finalement, entre, tu disais ce matin, Philippe, la continuité entre notre vie spirituelle et notre vie en dehors. Ben, je pense que ça, il me semble que c'est un petit peu ça, c'est que Dieu vient chercher Jacob dans la continuité de cet état d'esprit de lutte et de combat qu'il a toujours eu dans sa vie, et il y a cette continuité entre le fonctionnement et ce qu'il vit dans son quotidien et puis la façon dont il se retrouve là, confronté à Dieu. Par contre, ce qui est aussi pour moi, il me semble à la lecture de la texte, c'est que rien ne semble indiquer que Jacob au départ a conscience de lutter contre Dieu. On ne pense pas, en tout cas c'est un homme, l'apparence n'est pas évidente. Juste avant, quand les anges arrivent, hein, il voit tout de suite que c'est des anges et il dit c'est Dieu. Là, un homme arrive, il lutte, donc je ne pense pas que Jacob ait forcément, en tout cas, conscience de lutter contre Dieu. On n'est pas forcément dans une rébellion active, il lutte contre un danger, contre un adversaire, comme il a toujours fait à tout moment de sa vie, et elle n'est pas forcément synonyme de conflit direct voulu contre Dieu. Et d'ailleurs, il me semble que la lutte de Jacob, elle n'est pas présentée ni là dans le texte ni ailleurs de manière forcément négative, le fait qu'il lutte. Il semble même y avoir un peu une certaine reconnaissance par Dieu du courage, de la ténacité de Jacob. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je trouve que je le lis. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus loin. Alors, du coup, c'est quoi la signification de cette lutte, hein? Et je vous disais, comme le passage reste enveloppé un petit peu d'un certain mystère, les gens qui ont lu ce passage, ils ont vu différentes choses, en fait, différentes allégories, en fait. Certains ont vu dans cette lutte une allégorie de quelque chose de positif, en disant, y en a qui tirent des limitations, en disant, c'est un peu comme lutter dans la prière. Je lutte, je pars, je suis avec Dieu, et puis à un moment donné, effectivement, je dois reconnaître la souveraineté de Dieu, comme va le faire Jacob. D'autres, même, j'ai lu des choses intéressantes plus loin du texte, en disant, c'est comme une lutte avec la parole de Dieu aussi. Dieu nous parle, et puis on va chercher des choses, et on s'accroche à ça, et puis on retire des choses de ce corps à corps, entre guillemets, avec Dieu. Donc, tout ça pour dire que voilà, cette lutte en tant que telle, elle ne me semble pas être vue de manière forcément négative, mais sa première signification, sa première raison d'être, c'est en fait une vocation pédagogique. Dieu veut parler à Jacob, il veut lui faire comprendre des choses, et c'est vraiment là qu'est cette lutte, c'est une manière aussi de s'approcher pour Dieu, et une manière de venir parler à Jacob. Alors justement, comment est-ce que, et je vais passer plus de temps là-dessus, au-delà de la lutte, c'est l'issue de cette lutte. Est-ce que c'est une défaite ? Est-ce que c'est une victoire ? Il est parlé de victoire, mais comment on comprend alors la victoire ? Alors pour ça, je vous propose de lire un passage dans Osée, je trouve qui est clair aussi en parallèle. C'est dans Osée 12, je l'ai noté ici en intégralité, donc vous pouvez aussi le lire sur l'écran. Osée 12, c'est à partir du verset 3, là je lis dans la seconde 21. L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon, et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu de l'univers, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice et espère toujours en ton Dieu. Donc on retrouve dans ce passage d'Osée le fait que Jacob ait lutté avec Dieu. Il est dit qu'il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Et j'enchaîne, il a pleuré et lui a adressé des supplications. Dans le passage qu'on a lu en Genèse 32, qu'est-ce qu'il nous est dit par rapport à cette défaite ou à cette victoire? D'abord, il nous est dit au verset 26, voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, donc cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Ça, c'est au verset 26. Donc là, on a cette idée qu'il lutte, jusqu'au lever de l'aurore. Et il voit qu'il n'est pas vainqueur. Et puis, un peu plus loin, verset 29, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Est-ce que Jacob a remporté ce combat? En boxe, il y a des juges, et ils donnent des points. Je ne sais pas, on va peut-être pas faire ça pour savoir. Qui vous donneriez vainqueur au point? Mais qui pense que Jacob a remporté ce combat vraiment du point de vue pugilistique, quoi, vraiment combat? Allez, qui lève la main? Moi, je pense pas qu'il ait remporté le combat. Au mieux, il y a match nul. Je n'arrive pas à le vaincre. Il n'arrivait pas à le vaincre. Cette victoire, en fait, en tout cas, cette victoire illusoire, si on le voyait comme ça, c'est pas une victoire, c'est une perpétuation du combat. Jacob se bat, et alors le combat continue. Il ne s'arrête pas. Est-ce que c'est une victoire pour Jacob? Est-ce que c'est une victoire pour Dieu? Manifestement, non, ce n'est pas ce que Dieu voulait, puisqu'il a agi pour mettre fin à ce combat. Dans un sens, ça ne peut pas être une victoire, parce qu'on ne peut pas penser que Dieu soit impuissant et soit incapable de battre Jacob. Et la suite va le montrer, il est vraiment dans une démarche un peu pédagogique. Par contre, ce combat, il se poursuit, il dure. Moi, je pense qu'il y a une certaine ambivalence. C'est sans doute parce que Jacob doit apprendre quelque chose. Mais est-ce qu'on ne peut pas y voir une reconnaissance par Dieu aussi du caractère un peu positif, de l'énergie, du côté battant de Joseph? Et on va le revoir dans le fait que ce côté battant va aller jusqu'à aller attraper, chercher la bénédiction. Donc, c'est une victoire qui est illusoire sur le plan du combat. Pourquoi? Parce que, évidemment, Jacob va finir par devoir reconnaître sa défaite à l'instant où Dieu le veut. À l'instant où Dieu lui touche, lui démet la hanche, il n'y a plus combat. En fait, il n'y a jamais eu combat. Il n'y a jamais eu combat au sens d'incertitude. Il n'y a jamais eu combat au sens d'équivalence entre Jacob et Dieu. Jacob a pensé, il a lutté, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Et alors, pourquoi Dieu le veut? Pourquoi Dieu veut mettre fin à ce combat et mettre fin à ce combat plus tard? Il y a une chose qui est très très belle que j'avais jamais fait attention. Vous savez, il dit « Lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, il le frappe à l'emboîture de la hanche. » Et un peu plus tard, quand Jacob s'accroche à lui, il lui dit l'apparition de Dieu dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » On ne pouvait pas voir la face de Dieu et vivre. Et donc l'aurore allait se lever, le jour allait se lever, et Jacob ne pouvait pas supporter ça. Donc en fait, quand Dieu met fin à ce combat, il y a l'aspect pédagogique sur lequel on va revenir, mais je pense qu'on peut aussi penser, c'est parce que l'aurore se lève que Jacob ne pouvait voir la face de Dieu et mourir. Donc c'est une grâce aussi de Dieu qui dit non, je mets fin à ce combat dans lequel de toute façon tu ne peux que perdre, et moi je veux aller quelque part, je veux aller autre part avec toi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Dieu n'a pas cherché la défaite de Jacob pour l'humilier. Dieu n'a pas cherché la défaite de Jacob pour se rassurer sur sa puissance. Dieu agit toujours dans le bien dans notre bien de l'homme, mais dans un chemin, et dans un chemin que parfois on ne connaît pas. Et c'était le cas de Jacob, qui ne savait pas qui était cet homme, qui ne savait pas qu'il allait se passer si le jour arrivait, etc. Mais Dieu, lui, savait. Donc, c'est une victoire illusoire sur le plan du combat. Par contre, c'est une victoire. Il est bien dit qu'il est vainqueur. C'est dit dans Osée, c'est dit ailleurs. Alors, quelle est cette victoire? C'est une victoire, en fait, aussi, comment elle est, cette victoire? Et je vais passer plusieurs points. C'est une victoire malgré et même par la blessure, une victoire malgré et par la défaite. La victoire, ce n'est pas le fait d'avoir lutté et que Dieu n'ait pas pu prévaloir. Ça, ce n'est pas une victoire. La victoire, c'est ce que Jacob va finalement obtenir. Et c'est exactement, il me semble, ce qu'on peut lire dans le passage d'Osée que je vous ai relu. Il a été vainqueur. Vous voyez, il a été vainqueur. Et puis, juste derrière, il a pleuré et lui a adressé des supplications. Ces deux choses-là sont accolées. D'accord ? Ben en fait, ça montre bien que Jacob n'a pas vaincu sur le plan du combat. Le fait qu'il soit vainqueur, c'est associé au fait qu'il ait fait un retour sur lui-même. Il a pleuré, qu'on ne voit pas dans Genèse 32 d'ailleurs, hein, mais qui est éclairé là par Osée. Il a fait forcément un retour sur lui-même. Et puis, il s'est placé en situation de supplier Dieu. Il a fait des supplications pour recevoir quelque chose. Et c'est ce qu'il a reçu qui a fait qu'il est vainqueur de ce combat, en fait. Et donc, il a une victoire. Il a une victoire d'abord, et elle me semble très importante à regarder cette victoire très encourageante. C'est une victoire malgré la blessure et l'infirmité. Le caractère peut-être le plus visiblement paradoxal de cette victoire, c'est cette image finalement de Jacob. Je vais à la fin de l'épisode, parce que j'ai été très frappé, verset 32. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Je sais pas où, mais moi je vois l'image, quoi. Enfin, c'est quasiment cinématographique, quoi. Il y a eu tout ça. Là, le jour se lève. Voilà, il passe Péniel, mais il boite de la hanche. Et en fait, il a été frappé. Et donc, c'est cette défaite, c'est le moment où il y a la défaite, qui ouvre, en fait, au dernier acte, au nouvel acte, à un nouveau chemin avec Dieu. On a vraiment ce qu'on va retrouver aussi dans le Testament, ma force s'accomplit dans ton infirmité. Et là, on a bien, c'est une victoire qui commence par une défaite, en fait. Qui commence par la défaite d'être touché. Du coup, il a la hanche qui est démise et il ne peut plus combattre. Et par contre, il s'accroche. Hein, il le laisse pas partir. Et donc, voilà, il laisse-moi partir. Donc, on ne sait pas exactement comment c'est, mais ça veut dire que l'homme n'arrive pas à partir parce que Jacob, d'une manière ou d'une autre, s'est accroché. Il ne peut plus marcher, mais il s'est accroché, en fait, au bras de l'ange. Et donc, c'est une victoire malgré la défaite, et c'est une victoire qui est... La victoire, c'est la bénédiction, en fait. C'est une victoire par la bénédiction, en forme de bénédiction. Et je trouve très beau que Jacob, d'abord, avant de voir ce qu'est cette bénédiction, de se rendre compte qu'il va la chercher par un acte qui est... à la fois un acte de faiblesse et un peu d'audace, quoi. Parce que laisse-moi partir et je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Jacob qui est accroché comme ça à l'ange, ça peut être vu à la fois comme un acte d'abandon, de faiblesse, il ne peut plus rien faire, de reconnaissance de sa dépendance. Mais c'est aussi un acte d'audace, presque de panache, on dirait. Hein. Je lutte jusqu'au bout. Cette phrase, elle est incroyable, je ne te laisserai pas aller. Il est sans doute en train de se rendre compte, il est en train de comprendre que c'est Dieu en face de lui. Sa hanche est démise, il boite, donc c'est terminé d'un point de combat. Je ne te laisserai pas aller. Il y a quelque chose d'un panache, mais aussi de ce qu'il a toujours montré dans sa vie, c'est qu'il s'est toujours battu quand même pour avoir ce que Dieu promettait, en fait. Justement, de manière, on va y revenir, de manière un peu contestable parfois, mais il s'est toujours battu. Donc, moi, c'est vraiment, on peut le voir comme une expression de cette flamme chez lui, de sa soif de contact, de proximité avec Dieu. Et en même temps, il reconnaît complètement qui est Dieu et qui est sa grandeur. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. C'est toujours le plus petit qui est béni par le plus grand. Hein, c'est d'ailleurs dans la Bible. Dire je veux que tu me bénisses, c'est qu'il reconnaît que Dieu est plus fort. Donc Jacob a vraiment reconnu ça. Mais voyez, c'est à la fois un acte de foi, de faiblesse et d'audace, le fait de s'accrocher comme ça. Et alors, quelle est cette victoire? Cette victoire, finalement... Cette victoire va être matérialisée par ce changement de nom, et qui est une façon que Dieu utilise plusieurs fois dans l'Ancien Testament pour marquer, il me semble, à la fois une étape de vie, puis une nouvelle direction, une promesse particulière. Mais alors, elle passe d'abord par un moment de vérité, par un moment de repentance implicite de ce qu'a été la vie, le comportement de Jacob. Et ça, c'est la question de Dieu, hein. Quel est ton nom ? Et quel est ton nom ? Et répondu Jacob. Jacob, c'est celui qui trompe, celui qui supplante. C'est ce que disait Stéphane la semaine dernière, c'est pas hyper facile de s'appeler comme ça, et de dire oui, je suis celui qui trompe. Et donc, en fait, là, dans le texte, dans la façon, voilà, c'est le moment, c'est un moment de vérité. Jacob n'est pas responsable de son nom, hein. Il n'est pas responsable de son nom. Mais ce nom, il porte toute une vie où il a manipulé, calculé, où il a joué les rapports un peu de force, de duplicité, où il a lutté pour son intérêt, parfois de manière légitime, parfois de manière moins légitime, de manière un peu ambivalente, parce qu'il l'a très souvent fait dans une recherche pour saisir la promesse de Dieu. Et c'est quand même extrêmement frappant. Dans le ventre de sa mère, donc on ne peut pas dire qu'il était quand même pleinement responsable à ce moment-là, ils se battaient déjà entre eux, et puis il sort en lui prenant le talon. Donc presque, Jacob pourrait dire, mais tu m'as fait comme ça, quoi. J'y suis pour rien. Et devant les hommes, et on le voit beaucoup, on n'a pas le temps là, mais devant les hommes, Jacob, il aura des explications, il aura des excuses, il a des circonstances atténuantes, de bonne foi ou de mauvaise foi, en fait. Il a tout ça. Mais à ce moment-là, devant Dieu, tout ça est inutile. Tout ça n'a pas de valeur. Et ça, voilà, je trouve, dans ces combats de vie où on est, je trouve qu'on a toujours, dans la façon dont on se bat, on peut toujours se battre avec cette mauvaise foi-là, ou mauvaise foi, bonne ou mauvaise foi, mais on va chercher des excuses, des circonstances atténuantes, des solutions, des magouilles, tout ça, en fait. Et je trouve que ce que Dieu vient lui faire, c'est de le sortir, de dire, tu te bats, là, maintenant que tu es devant moi, comment est ton combat ? Voilà. Devant moi, devant quelqu'un qui est saint, devant quelqu'un qui est pur, devant quelqu'un qui est plus, mais devant quelqu'un qui sait aussi tout de toi, comment il est ton combat ? Et là, il doit dire, je suis Jacob, je suis celui qui trompe. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu est parfaitement saint, Dieu est parfaitement pur. Et donc, Jacob doit passer par là. Mais la victoire, la bénédiction, elle enchaîne uniquement derrière. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Et Israël, alors là, la façon dont c'est, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ce qu'on dit de cette traduction du mot Israël, c'est extrêmement, je trouve, fort, parce qu'il y a un peu deux sens. Il y a celui qui lutte avec Dieu, et puis au sens de persévérer, lutter au sens de persévérer apparemment. Et puis dans le même temps, on peut aussi traduire Dieu a lutté. Donc celui qui lutte avec Dieu ou Dieu a lutté. Alors il y a beaucoup de choses dans ce nouveau nom. D'abord, ce nouveau nom, il n'efface pas la personnalité de Jacob. C'est celui qui lutte. Donc ça fait lien un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure. La lutte, elle n'est pas forcément vue de manière négative, quoi. Il reste celui qui lutte. Mais ce nom, il est porteur de différences, de perspectives. Et dans les deux sens. Hein. Premier sens, celui qui lutte avec Dieu. Jacob est toujours celui qui lutte, mais l'accent, vous voyez, elle n'est plus sur la lutte envers les hommes. C'est plutôt, il est ramené à lutte avec Dieu. Et puis surtout, celui qui lutte avec Dieu, comme c'est, d'après ce que j'ai lu sur les traductions, plutôt le sens de persévérer, je trouve que ça ne donne pas... le premier sens qui sort, ce n'est pas lutter contre Dieu, forcément. Là, maintenant, c'est peut-être lutter, persévérer. Le sens qui apparaît, finalement, avec Dieu, aux côtés de Dieu. On peut le voir, Jacob va continuer à lutter, mais un peu comme s'il était recentré, en fait, sur la quête d'accomplissement de la promesse de Dieu, en concentrant ses efforts sur ce que Dieu lui présente et pas sur le fait d'en écarter les autres. Donc de ce sens-là, on peut déjà avoir un nouveau chemin un peu, ou une réorientation que Dieu lui ouvre. Et puis il y a le second sens, ce n'est plus seulement celui qui lutte avec Dieu, mais c'est Dieu à lutter. Et là, le nom met en lumière ce que doit découvrir Jacob, c'est que c'est pas lui qui lutte, en tout cas c'est pas lui qui est le contributeur décisif. Là, c'est un petit peu la même chose, j'ai lutté jusqu'à l'aurore, oui, j'étais, bam, ben non, t'y es pas, je te démélange. C'est Dieu qui lutte, in fine, c'est Dieu qui est fidèle, c'est Dieu qui persévère avec lui. Il pourrait relire, mais dans l'épisode des brebis, là, où il pense, c'est très bon parce qu'il veut se faire des brebis tachetées alors qu'il n'en a pas, et donc il a tout un plan où il les met sous un certain arbre, etc., et puis ça va les faire devenir rayés, etc. Et après, il rappelle cet épisode, il en reparle à Léa et à Rachel, et puis il dit lui-même, il dit, bah, Dieu a fait en sorte, Dieu m'a dit, bah, je ferai en sorte que toutes les brebis soient tachetées. Et c'est tellement, si, je trouve ça mec, ouais, Jacob, il dit tout un truc, mais en fait, non, si je mets une brebis devant une branche rouge, elle va pas devenir rouge, quoi. Mais Jacob, il y va, quoi. Et en même temps, il dit, et, il est conscient, et Dieu lui a dit, mais non, c'est moi qui fais les brebis tachetées, quoi. Donc, vous voyez, je pense que c'est ça qu'il devait continuer à apprendre, ou vraiment apprendre, c'est de dire que c'est Dieu qui lutte aussi. Et donc, cette bénédiction, c'est quoi? Et en fait, il y a à la fois, il me semble, un décentrage et une bénédiction. Il y a un décentrage parce que Jacob, maintenant, il est face à Dieu, et pas tout commenter, mais juste après, quand il veut que Dieu lui révèle son nom, et Dieu lui dit, non, pourquoi demandes-tu mon nom? Je ne peux pas te le dire, on sait que mon nom est trop grand pour toi, je ne peux pas te le révéler. Dieu, Jacob est face au Dieu qui ne peut pas être rassemblé en un nom, qui ne peut pas être vu à face découverte. Dieu est plus grand que les combines de Jacob, mais il est aussi plus grand que ses peurs. C'est ça aussi, je trouve que Dieu ne vient pas seulement condamner les combines. Pour moi, dans cet épisode, parfois, je trouve qu'on voit un peu trop ça. Il vient aussi répondre à ses peurs, répondre à ses incertitudes. Et Jacob avait déjà en partie conscience de cela, on l'a lu dans sa prière précédente, mais manifestement, voilà, il avait besoin de progresser dans la conscience, dans cette conscience-là, dans ce décentrage-là. Et puis, il se rapproche, il se révèle. C'est Stéphane qui notait la semaine dernière. Hein, il y a d'abord cette première rencontre à Bethel où Dieu est dans le ciel. Puis Manaïm où il dit, ben, c'est le camp de Dieu. Il sent qu'il y a Dieu, mais il est à côté. Et puis là, maintenant, j'ai vu la face de Dieu. Et ça, il m'a sauvé. Et Dieu se laisse toucher, Dieu se laisse combattre. Dieu vient près de lui. Et cette bénédiction, hein, c'est, voilà, c'est pas qu'un nom, hein, parce que Jacob, comment il l'appelle? Verset 31, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Ma vie a été sauvée. Donc c'est incroyable parce que Ésaü est encore là-bas, il est encore devant lui. Pourquoi il dit, il s'est passé quelque chose au fond de Jacob, je pense. Et d'ailleurs, le texte ne nous dit pas tout. Pourquoi à ce moment-là, il dit, ma vie a été sauvée? Ma vie a été sauvée parce qu'il a vu Dieu et qu'il n'est pas mort, mais aussi sans doute parce qu'à ce moment-là, vraiment, voilà, je pense qu'il voit que Dieu l'a sorti en fait d'un fonctionnement dans lequel il allait un peu dans le mur, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois, je vais un peu au-delà du texte, mais voilà, je pense que ça n'est que chacun pour soi-même qu'on peut dire comment Dieu a sauvé notre vie. Donc, une victoire en forme de bénédiction. J'ai dit au départ, une victoire, je me souviens tout à l'heure, un côté un peu paradoxal, une victoire qui passait par une défaite, une victoire malgré la blessure. Mais ce que je trouve aussi très fort, c'est qu'on peut inverser cette phrase. Il y a aussi la blessure malgré la victoire. Je trouve que c'est un aspect assez bouleversant dans cette histoire. C'est que la blessure, l'infirmité, elle demeure malgré la victoire. Il y a eu victoire malgré la blessure, mais il y a aussi blessure malgré la victoire. Et ça, c'est ce moment où il passe Péniel et il boite de la hanche. Il a gagné au sens, il a eu cette bénédiction, etc. Il part vers autre chose. Et là, on dit, ben voilà, c'est... Justement, si on était en film, il partirait en courant, quoi. Là, il part en boitant. Et voilà, ça, c'était aussi quelque chose que moi, je veux vraiment garder de ces passages. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, mon frère, ma sœur, peuvent vivre avec Dieu encore plus profondément, peuvent avoir progressé avec Dieu, peuvent avoir atteint quelque chose de plus avec Dieu, tout en restant marqué... de manière sans doute douloureuse, de manière parfois définitive, par une blessure de vie. Et donc, voilà, c'est que ce soit une blessure active, parce qu'elle continue à être là, parce qu'il va continuer à boiter, une blessure qui peut être une cicatrice, un souvenir de quelque chose, mais ça peut rester. Et ce n'est pas un synonyme de défaite, ce n'est pas un synonyme de marche de deuxième classe, pas du tout. Ça peut être au contraire... le moment, une des choses par lesquelles finalement Dieu m'a fait progresser, Dieu a fait progresser, a sauvé quelqu'un. Et ça, je trouve, ça nous amène aussi vers, ça nous fait vraiment tellement penser à Jésus, je trouve. La victoire à travers la défaite, la victoire à travers la blessure, je trouve qu'on peut vraiment penser à ce combat de Jésus, hein, ce combat de Jésus à Gethsémani, cette lutte qui a été à la fois physique et morale. Hein, je disais tout à l'heure dans Péniel, on se dit, mais est-ce que c'est un combat intérieur? Est-ce que c'est un combat physique? Ce combat de Jésus à Gethsémani, c'est larmes comme cette sueur comme des grumeaux de sang. Jésus frappé, Jésus défait, Jésus qui l'emporte malgré la défaite apparente, la défaite de la croix qui est en fait une victoire. Il y a des parallèles, il y a des différences aussi, parce que Jésus, lui, était parfait. Il n'avait rien à apprendre, il n'avait rien à redresser. Jésus était puissant, il pouvait éviter la défaite. Et Jésus, il a été frappé mortellement, complètement, privé de la présence de Dieu. Là, au contraire, où Dieu va chercher Jacob, où Jacob va pouvoir être accroché à Dieu, alors que Jésus, lui, a été séparé. En fait, c'est parce que Jésus a accepté une défaite injuste que nous, nous pouvons avoir des victoires injustes ou des victoires imméritées, en fait. C'est ça, la défaite qui a été voulue, qui a été terrible, qui a été imméritée de Jésus, qui est aussi sa victoire parfaite sur le mal, eh ben, ça nous offre à nous, à Jacob, à moi, à chacun, une victoire inespérée, une victoire imméritée, parce que finalement, c'est par Jésus qu'on peut l'avoir. Alors du coup, je vais terminer par trois pensées que je retiens. D'abord, l'idée que le Dieu de Jacob, mon Dieu, ton Dieu, est un Dieu personnel, qui a un plan, qui a une attention pour chacun de nous. Alors, il est allé chercher Jacob dans ces circonstances, il s'est révélé dans la mesure de ce qu'on était capable de recevoir. Il a donné ce qu'il pouvait lui donner. Il a eu la sagesse de dire « Non, je ne peux pas te révéler mon nom. » Il a eu la sagesse d'arrêter le combat avant que l'aurore se lève et qu'on le voit face à face, qu'on ne pouvait pas. Donc, il se révèle dans la mesure de ce que nous sommes capables de recevoir. Il bénit et puis il dirige. Il remet. La deuxième chose, et peut-être c'est la chose que j'ai le plus appris en reprenant ce passage, c'est que la façon dont Dieu fait aussi avec nos caractères, avec nos chemins. Y compris lorsqu'ils sont peut-être un peu plus abrasifs que la moyenne, et la vie chrétienne n'est pas limitée à un seul modèle ou à une seule attitude, en fait. Jacob, il est responsable de sa conduite, il est responsable de ses choix, mais on l'a dit tout à l'heure, une partie de ce qu'il est, c'est là dès le ventre de sa mère, quoi. Et donc, il me semble que ce n'est pas tant le caractère de lutteur qui est problématique, et au contraire, en fait, en le renommant celui qui lutte, je trouve que Dieu, au contraire, voilà, il veut réorienter, il veut renouveler, mais... Je veux dire, il ne reproche pas à Jacob de lutter. Et au contraire, cette lutte de Jacob, on voit tout ce qu'elle a de bon. Parce que du coup, il va chercher, quoi. Il va chercher la bénédiction, il y va, quoi. Et ça me parle aussi parce que, voilà, peut-être que Dieu ne veut pas forcément de moi que je sois... Il ne veut pas que des chrétiens atones, mous, timorés, en fait. C'est pas ça qui est valorisé, comme si par définition, quand on luttait pas, quand on était mou, alors là par définition on serait humble et dépendant de Dieu. C'est pas la question. Je trouve que Jacob, il vient le chercher là où il est. Jacob, c'est quelqu'un qui lutte, c'est quelqu'un qui a ce caractère, c'est quelqu'un qui a cette fougue. Et en fait, au contraire, moi j'envie ça, quoi. Et Dieu, par contre, c'est canaliser ça, c'est réorienter ça, c'est débarrasser ça de ce qu'il y avait de scorie, mais pour en faire quelque chose, ben oui, tu es Israël, t'es celui qui lutte avec les hommes, avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Donc, voilà, je trouve que c'est pas le problème, c'est pas les luttes, c'est bien l'orientation de ces luttes, la façon dont on les mène. Et Dieu fait avec nos combats. Alors, on n'est peut-être pas tous comme Jacob, hein, mais on peut aussi être comme Jacob. Et Dieu peut utiliser ça et peut vitaliser ça et redresser ça. Et puis, dernier point, c'est que on parlait de combat. Et donc, ce qu'on voit dans ce passage, il me semble, c'est que la grâce de Dieu, elle en surplomb de tous mes combats. Je sais pas, Dieu marche à mes côtés malgré des chemins qui ont été plus ou moins tordus. Dieu peut et veut transcender nos erreurs, nos défauts, nos peurs. Et il y avait tout ça dans Jacob. Il y avait ses erreurs qu'il avait mis dans une situation compliquée par rapport à Ésaü. Il y avait ses défauts avec ce caractère toujours d'essayer de trafiquer, etc. Il y avait ses peurs, parce que sa vraie peur d'être face à Ésaü. Et Dieu vient et transcende tout ça. Voilà. Alors, c'est aussi ce que disait Stéphane. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Hein. Il va passer Péniel et il y a toujours Ésaü en face. Et on va voir que ça va bien se passer. Mais voilà, enfin, il reste plein de choses. Il va y avoir plein de difficultés dans la vie de Jacob. On sait que voilà, tout ce qui s'est passé avec Rachel et Léa et puis ensuite avec leurs enfants et ça va continuer à poser pas mal de problèmes et de difficultés et Jacob va pas donc tout tout s'est pas aplani de manière définitive et complète à ce moment-là. Mais Dieu lui a, à ce carrefour de vie, dans ce combat, Dieu lui a redonné quand même une perspective, une promesse, l'a réorienté. Et Dieu, voilà, peut réorienter notre énergie et notre histoire. Il ne regarde pas forcément nos combats comme étant sans intérêt, ou il ne regarde pas comme étant forcément négatif. Mais comme il l'a fait avec Jacob, je pense qu'il veut nous apprendre à mener ces combats dans la conscience de sa puissance, dans la conscience de sa grâce, dans la conscience de notre dépendance. Et on peut, comme Jacob, voilà, passer, avancer, plus ou moins, en boitant plus ou moins par rapport à ce qui s'est passé, mais en sachant que Dieu est avec nous, que Dieu est avec nos combats, que sa grâce est au-dessus de nos combats.